bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Maxime Goudard. Porter son regard cette semaine sur le staffage, ce terme utilisé en peinture pour désigner les figures animales et humaines qui ne sont pas les sujets principaux d'un tableau et qui donc souvent ne sont là que pour meubler. Ce sont des êtres décoratifs dont la présence équilibre l'image. La prochaine fois que vous croiserez une mini-vache floue ou un petit chien perdu dans l'horizon d'un tableau du Lorrain, saluez l'émouvante et sobre créature de ma part. Vous rencontrerez peut-être l'un de ses pairs dans la surprenante dimension qu'on nomme réelle. Notre invitée est une dessinatrice et auteure de plus d'une cinquantaine d'albums illustrés dont beaucoup comportent des chiens. Elle signe une œuvre en ayant pensé à tous les âges. Ses derniers ouvrages sont Mystère dans le grenier, un nouvel épisode canin paru à l'école des loisirs, et Marimoto, Seul contre l'ouragan, premier tome d'une nouvelle série chez Seuil Jeunesse. Le 13 mai ou le 10 mai prochain, on a plusieurs dates juste après les présidentielles, Le Seuil et Dargaud feront paraître un ouvrage collectif intitulé Carnet de campagne, dans lequel on verra les reportages illustrés de 6 dessinateurs de bande dessinée à qui l'on a demandé de suivre les candidats aux élections. C'est la campagne de l'écologiste Yannick Jadot qui sera observée et croqué par notre invité.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Dorothée de Monfred.
Bonjour Eva Bester.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Ah oui, bien sûr.
Ah waouh ! Ça sortait vraiment du cœur. Les gens hésitent parfois, mais
c'est
là
vrai?
Vraiment, je vous crois. Vous, je vous crois.
Ah oh bah oui, parce que j'aime bien les expériences, donc c'en est une.
Ça a toujours été le cas ?
J'ai l'impression, ouais. Même dans les moments chiants ou tristes, je pense pas avoir jamais regretté.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Alors, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Il y a des hauts et des bas, je pense un peu comme tout le monde. Hein. Ça va dans l'ensemble. En ce moment, oui, non, c'est plutôt pas mal.
Alors, ce qui vous donne envie de vous lever, Dorothée de Monfred, c'est la perspective d'aller à votre atelier que vous qualifiez de lieu idéal à la fois en retrait et connecté à la ville. Est-ce que je peux vous demander où est-ce qu'il se trouve ?
Alors, il est entre Bastille et Saint-Paul, dans le 4e arrondissement. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est un immeuble qui est très étroit. Pour y entrer, il y a une petite porte marron qui ne se voit pas si on n'est pas en train d'y aller vraiment. C'est, je sais pas, on dirait une porte de Hobbit, un peu, comme ça, qui disparaît dans la rue. Et moi, je suis tout en haut, c'est un studio sous les toits, avec une grande verrière qui est orientée plein nord. Donc, c'est une vraie lumière d'atelier. C'est ça qui m'a décidé à louer cet endroit quand je cherchais un atelier. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'était effectivement un atelier même dans les années 20. Le propriétaire de cet endroit m'a montré une photo d'un dessinateur d'il y a 100 ans qui était déjà là, quoi. Donc il y a vraiment des bonnes ondes. Et en plus, j'ai un balcon, ce qui est génial. Et ça me permet d'avoir la vue d'un côté sur Bastille et de l'autre côté sur Beaubourg.
Pas mal. Vous le partagez ?
Non, je suis toute seule.
Ah, c'est le luxe.
Le super luxe, ouais.
Et vous n'avez jamais de sentiment de paresse ? Ça vous arrive de procrastiner ?
Si, j'ai toujours un sentiment de paresse. Ah. Mais je pense que je suis ce genre de personne qui est paresseuse et travailleuse, vous voyez ?
Oui.
Voilà. Donc, je procrastine assez peu, en fait.
Et vous arrivez à travailler chez vous ?
Pas tellement, parce que je suis toujours sollicitée par des tas de trucs qui sont pas mon travail. Donc, c'est comme en vacances, quoi. Je me dis toujours, génial, enfin les vacances, je vais pouvoir bosser. Et je bosse pas, parce que je suis occupée par d'autres choses et des sollicitations diverses de la famille.
S'il y a beaucoup de dessinateurs et d'auteurs de bandes dessinées qui travaillent en atelier. Donc j'imagine que quand on fait ce genre de choses, il faut avoir une autodiscipline très forte, puisqu'on n'a pas d'horaire de bureau en fait, à part celle qu'on s'impose.
Ah, c'est sûr
qu'on s'impose, pardon.
L'atelier collectif, j'ai pratiqué il y a un peu plus de 15 ans. J'ai passé 3 ans dans un atelier, on était 7 dessinateurs. Et c'était très chouette, mais il y a eu un moment où je me suis sentie un peu en décalage avec les autres, parce que moi j'ai eu un enfant, les autres n'en avaient pas encore. Et donc voilà, puis il y avait toujours de la musique, donc j'arrivais plus à me concentrer. Et depuis, je suis seule. Et je trouve ça même plus simple de se discipliner seule. Enfin, moi j'ai un côté comme ça, très carré. Personne ne me donnera plus de contraintes que moi-même à moi-même.
Donc vous arrivez réellement, Dorothée de Monfred, à vous lever tous les matins à la même heure, à aller dans votre atelier, à vous mettre au travail et à...
Ouais.
Bravo.
Mais j'aime bien ça. En fait, on fait un métier qui est tellement, plein de surprises et d'inconnus qu'il faut avoir des choses un peu fiables. Moi, j'ai besoin de choses très régulières pour pouvoir me permettre justement de me surprendre moi-même à l'intérieur du travail.
Dans un instant, il sera question de la longévité de l'enfance, de Grégoire Solotareff, de bricolage existentiel, de ukulélé, de Cynthia Fleury, de Léo Scarrax, de Luc Reinhardt et de David Hockney. Vous écoutez L'Embellie sur France Inter.
Avec mes grandes oreilles, moi j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles, de Maubeuge à Marseille. Tous ils sont les merveilles, et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil avec mes grandes oreilles. Sommeil, j'ai bien lu tout Corneille. Je dors pas, mais j'essaye. Pas besoin de réveil avec mes grandes oreilles et mes petites orteils. Je peux pépégayer. Auriez-vous un conseil avec mes grandes oreilles?
Le morceau Grandes Oreilles, nous sommes toujours en studio avec Dorothée de Monfred.
Je me vois avec mes cheveux blancs, avec mes rides, et je me vois enfant. Je suis enfant, mais on a tous l'enfant en nous. Certains ont du mal à le faire vivre, et moi j'ai peut-être du mal à faire vivre l'adulte. Mes enfants me reprochent de ne pas être adulte. Il faut quand même grandir dans la vie. Et je vis dans mon écriture, je vis et revis l'enfance.
L'auteur et dessinatrice Suzy Morgenstern dans À voix nue sur France Culture en août 2020 pour introduire l'un de vos souhaits, Dorothée de Monfred, faire évoluer la place de l'enfance dans la société et dans l'esprit des gens. On ne devrait pas se couper de cette période qui est une force et une ressource incroyable pour tout le monde. L'enfance fait partie de l'âge adulte et vice versa. Vous êtes donc d'accord avec Walt Disney qui affirmait que les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi?
Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir un ascenseur intérieur qui me permet d'aller d'un âge à l'autre comme ça. Et même quand je croise des gens dans la rue, enfin, je sais pas, je trouve qu'on voit, on voit les enfants en eux, même s'ils ont tendance parfois à le cacher.
Vous pouvez choisir l'âge que vous avez ou parfois vous le subissez.
Les deux.
Les deux. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des gens vieux en nous ou est-ce qu'on est vieux âgé parce qu'on essaye de coïncider avec l'âge qu'on croit qu'il faut arborer?
Je pense que dans certaines circonstances, oui, quand on se croit obligé de se comporter d'une certaine façon, on peut avoir tendance tout à coup à vieillir. Mais quand on est vraiment sincère avec ce qu'on pense, qu'on ressent dans une situation et qu'on se permet d'être soi-même, ces questions-là n'existent pas. Parce que qu'est-ce qui rend vieux finalement, c'est le déclin physique et mental, mais ça, ça n'empêche pas de garder un peu une part d'enfance. Les habitudes, les responsabilités.
Les responsabilités peut-être, ou la peur. La peur, ouais.
La peur de quoi ?
La peur de quoi ? La peur de la peur.
Comment convoquer ou cultiver tous les âges qui coexistent en nous ?
Alors, je sais pas comment faire. Faudrait trouver des petits jeux à faire dans la vie quotidienne qui fassent des ouvertures, qui permettent ça. Ou alors la musique, je trouve que. En fait, peut-être c'est une question de rapport au temps. Moi, c'est un truc que je recherche beaucoup dans la vie. Trouver un rapport davantage au présent que au futur. C'est-à-dire quand on est dans un truc de responsabilité, de prévoir ce qu'on va faire. Qui vient surtout quand on a des enfants, on a tendance à se couper de ce truc-là. Et si on arrive à trouver des activités qui nous remettent dans le présent, on est plus dans cet esprit d'enfance que j'aime. Donc pour moi, ça va être la musique, la danse, voilà, des choses un peu physiques et dans le présent.
Des expériences sensibles.
Ouais.
Dorothée de Montfred, est-ce qu'il y a un âge qui prend plus de place que les autres chez vous ?
Alors ça dépend des moments. Je pense que pendant pas mal d'années, moi, j'étais assez branchée 2-4 ans, quoi. Et puis, je pensais que je serais jamais en phase avec la période adolescente. Et en fait, maintenant, je me sens beaucoup plus en phase avec l'adolescence que je l'ai été ces dernières années. Voilà, mais c'est toujours un mélange, hein. C'est jamais exclusif.
Vous avez quel âge, là ?
Là, tout de suite ? Là, je dirais 8-9.
8-9 ?
Ouais.
Bon, vous êtes en bonne compagnie parce que c'est pareil en face. Votre engagement en ce qui concerne l'enfance apparaît dans vos livres et dans votre implication dans des actions pour lesquelles vous pensez concrètement pouvoir apporter quelque chose. Sinon, vous dites « c'est du blabla ». Donc, par exemple, il y a la participation à la commission jeunesse de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, la participation au comité de lecture et au jury jeunesse du Festival d'Angoulême. Dans ces institutions, à mon niveau, je défends une vision de l'enfance que je pense capitale. Ça, ce sont vos mots.
Ah oui, mais je trouve que c'est hyper important parce que tout vient de là, en fait, il me semble. Hein. Je veux dire, n'importe quoi dans la vie, ça a été nourri d'enfance d'abord, pour chacun, quoi. Donc, c'est là que ça se forme. Donc, c'est hyper important d'avoir ça présent à l'esprit quand on, je sais pas, quand on prend des décisions, quand on organise des choses qui ont une conséquence sur la vie des enfants. Donc, je vais pas prétendre connaître tout dans la société parce que je connais pas tout. Mais par contre, il y a des choses que je connais bien, c'est les livres. C'est mon métier. Donc, quand il s'agit de livres et de mon métier, je pense que je peux aider avec d'autres à améliorer des choses qui sont améliorables. Donc, quand je faisais partie du comité de sélection du Festival d'Angoulême, en effet, on a eu des discussions géniales avec ce comité sur des bouquins pour choisir de mettre en avant certaines choses qui étaient, qui valaient le coup, quoi. Et c'est assez rare. Et je pense que ça a des implications dans le monde réel après et dans l'enfance, quoi. Ça a permis de mettre en avant aussi le prix jeunesse du Festival d'Angoulême, qui était un peu considéré malheureusement comme un sous-prix par beaucoup de gens avant. Là, maintenant, on a un vrai prix avec un vrai jury, c'est super important parce que c'est une question de reconnaissance et voilà, reconnaître ses livres, reconnaître le prix, c'est aussi reconnaître la place des enfants dans la société.
Dorothée de Montfred, pour la première fois, là, vous faites une incursion dans le dessin politique.
Ah oui.
J'en parle parce que j'allais dire, c'est le monde adulte, vous qui avez déjà fait des ouvrages pour les adultes. Mais en fait, non. Enfin, ça a l'air d'une mascarade un peu enfantine aussi, la politique. Alors, ça s'appelle Carnet de campagne. Ce sera édité le 10 mai par Dargaud et Le Seuil. C'est un roman graphique de 240 pages, qui paraîtra donc moins de 3 semaines après le second tour. Vous suivez l'écologiste Yannick Jadot, Mathieu Sapin, Macron, Lara du Canard Enchaîné et Jean-Luc Mélenchon, Morgane Navarro, Marine Le Pen et Éric Zemmour, Louison, Anne Hidalgo et Coco Pello, Valérie Pécresse.
Mais oui, voilà, c'est une aventure complètement dingue, ça. C'est Mathieu Sapin donc qui chapeaute le projet, qui m'a proposé ça. Il m'a proposé de suivre les Verts. Alors à l'époque, on savait pas encore qui ce serait, mais donc c'est le candidat Yannick Jadot.
Parce que vous n'avez pas choisi, les dessinateurs n'ont pas choisi quel candidat ils allaient suivre.
Moi, je suis la dernière arrivée, donc on m'a proposé les Verts. Pour les autres, il y en a peut-être certains qui en ont un peu discuté entre eux, mais je crois que dans l'ensemble, on a tous été assez contents de ce qu'on nous a suggéré, parce que ça avait une résonance en nous. Ce qui veut pas dire que c'est notre candidat préféré, mais en tout cas il y avait des raisons, quoi, ce qui fait que c'est assez pertinent. Et la particularité de ce projet, c'est que on va chacun se dessiner et se mettre en scène en train de suivre le candidat. Donc c'est un regard qui est vraiment volontairement subjectif, ce qui est assez pertinent parce que ça permet de vraiment de dire d'où on parle et d'exprimer toutes les résonances que ça peut avoir pour nous, quoi. Et ensuite, on va faire donc chacun une quarantaine de pages sur notre candidat et on va faire un montage de l'ensemble des pages qui sera chronologique, ce qui permettra vraiment de suivre le déroulé de la campagne jusqu'au second tour.
Comme on parle dans cette émission de participer au monde, est-ce que vous pensez que cette incursion dans le dessin politique est une forme d'engagement ?
Alors,
quel qu'il soit, engagement au sens large.
Pour moi, j'ai une espèce d'engagement de sincérité, c'est-à-dire que je veux pas être dans un dessin de parti pris militant. Donc pour moi, c'est une forme d'engagement aussi. Et puis, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est les implications que ça peut avoir pour moi, la question écologique par rapport à la famille et au débat qu'il y a entre les générations. C'est des choses que moi, je vis dans ma famille et que j'ai envie de raconter. Donc, il y a des questions comme ça qui s'incarnent dans moi, dans ma famille, que je peux voir aussi en débat chez les Verts et qu'on voit en débat dans la société française. Donc, tout ça, pour moi, participer à ça, en parler, en témoigner, ouais, c'est une forme d'engagement.
En tout cas, ça me fait penser à quelque chose que j'ai trouvé assez amusant dans Marimoto, Seul contre l'ouragan, ce premier tome d'une série jeunesse dont l'héroïne fait de la moto, c'est tout ce que je dévoilerai de l'intrigue. Parce que à une ou deux reprises, Dorothée de Monfred, vous faites des blagues, c'est-à-dire que vous dites « oui, là, c'est super, je vais prendre cette moto » et tout ça, comme une héroïne. Puis après, vous faites des petites apartés. « Oui, bon, mes parents m'ont dit que ça polluait, mais je veux dire, bon... on est conscient de ça quand même, parce que là vous parlez d'écologie.
On est dans ce monde-là, donc ouais, forcément, j'essaye d'intégrer toutes les questions d'aujourd'hui à une histoire comme ça.
C'est vrai que quand ma famille est arrivée de Liban, il y a, en 60, on a vécu un an et demi en Bretagne, et donc j'avais à peu près 7 ans. Et donc, on a vécu vraiment très près de la nature. En plus, on n'allait pas à l'école, donc on avait le temps de profiter de la nature, de rester dehors très souvent, de dessiner les animaux beaucoup, de regarder dans les livres. Et j'ai des livres en Bretagne qui sont de lacépèdes et de figuiers, qui sont des répertoires de tous les animaux qui existent.
Dorothée de Monfred, nous allons découvrir les personnes qui ont changé votre rapport au monde. La première, c'est le dessinateur et éditeur Grégoire Solotareff, qu'on vient d'entendre dans l'émission Chris Crumble de la légendaire Chris sur France Inter en 2006. L'auteur dirige la collection Loulou et compagnie pour les tout-petits à l'école des loisirs. Et c'est lui qui vous a autorisé à mettre du Tipex sur vos dessins, ce qui vous a permis de faire votre premier livre sans chercher la perfection. C'était Le chien du lapin.
Mais oui, parce que alors moi je suis dans une, enfin je suis née dans une famille où on dessine, et donc la grande idée c'était jamais de crayon, jamais de Tipex, on gomme rien, on y va direct à l'encre et en gros c'est parfait tout de suite. Donc évidemment c'est un petit peu inhibant quoi. Et quand Grégoire Solotareff m'a donné ce conseil, il m'a dit mais regarde ton original, ça peut être n'importe quoi, ça peut être absolument dégueulasse, il peut y avoir des collages, du Tipex, ça a été très libérateur pour moi. Je me suis permis des choses que je m'étais pas permise avant. Ça m'a permis d'aller au bout de ce premier bouquin, oui.
Et alors justement, il y a une autre rencontre qui s'inscrit dans la même idée. Je vous cite. « Mon médecin qui un jour m'a dit à je ne sais plus quel propos, on bricole. J'aime bien cette idée qui autorise à tâtonner et se tromper. »
Mais oui, en fait, j'y pense absolument tout le temps. Ça paraît vraiment une phrase hyper banale, mais ça m'a marquée.
Et c'est plus inquiétant de la part d'un médecin, on bricole.
Non, mais parce que je sais plus, je vais avoir un problème qui n'était pas complètement résolu, mais en même temps, ça va bien, quoi. Tout va bien. Et je trouve ça assez rassurant qu'un médecin puisse dire ça et que ce soit rassurant. Et juste d'entendre ça, ça va mieux, quoi. Donc, je pense souvent à ça et j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne philosophie.
Extrait de votre album CD Super Sauvage, paru chez Gallimard Jeunesse en 2011, une histoire chantée et illustrée pour laquelle vous avez collaboré avec le rocker Tony Truant, qu'on a pu entendre dans plusieurs groupes comme les Vampas, une œuvre qui a pu voir le jour après un concert qui vous a bouleversé en 2008.
Oui, alors en 2008, je suis allée voir, parce que c'était près de chez moi, un concert du Ukulele Club de Paris. Et je sais pas, j'ai vu c'était combien ils étaient, je sais plus, 4 ou 5 garçons et une fille alignés comme ça avec un petit air hyper complice en train de jouer du ukulélé, et j'ai trouvé ça mais
totalement génial. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus été obsédée que par une chose, c'était jouer du ukulélé moi aussi. Donc je suis allée m'en acheter un direct. Et je suis allée dans une soirée, comme il s'en faisait beaucoup, d'ailleurs il s'en fait toujours chaque semaine à l'époque, et je ne connaissais personne, j'ai débarqué, j'ai dit à quelqu'un que je cherchais un prof, et on m'a directement donné le numéro de Tony Truant, donc le guitariste des Vampas, et j'ai pris des cours avec Tony. Et au bout d'un an, j'avais ce projet de livre-disque que je lui ai proposé. Je pensais qu'il allait emmener mon projet dans son studio et faire ça avec ses musiciens. Il m'a dit non, ok, vas-y, chante. Tu fais tel personnage, tu joues du ukulélé. Donc on s'est rassemblés avec quelques amis avec qui on avait pris l'habitude de jouer et on a fait ce disque ensemble. C'était incroyable. Et on a enregistré tout à l'ancienne dans un studio. Je crois que c'était le studio qui avait enregistré les non-tropos à l'époque. Et on a enregistré donc tous ensemble dans le studio en même temps, sans faire les pistes une par une. Donc ça donne une espèce d'intensité incroyable à l'enregistrement.
Comme un plan séquence.
Ah oui, un plan séquence. Et en plus avec des gens qui, pour la plupart, n'étaient pas pros. Donc voilà, on n'était pas blasés du tout. Hein. C'était incroyable.
Mais ça ressemble à nouveau à ce que vous disiez tout à l'heure, Dorothée de Monfred, au fait de dessiner tout de suite à l'encre, ouais. Sans garde-fou de crayon.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, il s'agit de faire quelque chose en vrai tout de suite, en sachant pas tout à fait le faire. Donc il y a une espèce de risque et il y a la notion de jeu que j'aime bien. Et ce rapport au temps qui est complètement dans le présent.
Dans ce que vous aimeriez accomplir, il y a aussi le fait de savoir jouer du piano. Mais ça, vous regrettez de ne pas savoir le faire. Vous avez déjà pris des cours ?
Ah oui, je prends des cours. En fait, j'aime beaucoup la musique. J'ai fait 8 ans de violon quand j'étais petite. J'ai arrêté à 14 ans. J'en faisais beaucoup. Hein. J'en faisais une heure par jour. Je faisais de l'orchestre et tout ça. J'ai arrêté parce que j'ai été vexée par ce que m'avait dit un chef un jour. J'ai pas fait de musique pendant 20 ans quasiment. Et après, je m'y suis remise avec le ukulélé. Et là, je prends des cours de piano depuis un peu plus de 2 ans. Mais c'est difficile, quoi, parce que là, c'est difficile de passer outre le solfège. Donc, moi, je suis pas super forte. Hein. C'est dur là de lire. Je suis plus instinctive. Donc, quand il faut vraiment déchiffrer, je galère. Donc j'ai du mal à atteindre ce moment agréable en musique où on maîtrise suffisamment de morceaux pour y aller sans déchiffrer la partition et en écoutant la musique, quoi. Si je crois que j'en suis là, je commence à perdre le fil et je me plante à tous les coups. Donc ça va progresser.
C'est sûr, mais est-ce que je peux vous demander, mais peut-être que vous n'avez pas envie de le dire, mais est-ce que vous avez dit ce chef qui vous a vexé ?
Oh, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais en tout cas, je devais changer d'orchestre parce que, je sais pas, tout le monde changeait et on passait des auditions et il m'a pas prise. Donc, je me suis dit plus jamais et j'ai arrêté le violon.
Dans vos rêves, en tout cas, il y a aussi le fait de réaliser une œuvre hybride avec de la musique et du dessin dedans. Bah, vous l'avez déjà un peu fait?
Oui, je l'ai déjà fait, mais je trouve toujours que c'est pas assez. Je voudrais augmenter la dose. Et puis, c'est passé, quoi. Donc, il m'en faut un nouveau.
Dorothée de Monfred, vous êtes, selon vous, nul en solfège, et vous avez des regrets aussi à propos d'autres choses, c'est de ne jamais avoir appris la navigation.
Ben oui, parce que j'adore le bateau. J'aurais eu éventuellement la possibilité de faire l'école de voile quand j'avais 14 ans, et j'ai pas voulu y aller, et vraiment, c'était une mauvaise idée de pas le faire, quoi. Je regrette beaucoup, parce que c'est dommage, et que ce serait mieux de faire du bateau en étant actif, plutôt qu'en m'endormant, parce que y a du roulis.
Et vous pouvez encore aujourd'hui apprendre.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En plus, je suis assez pour apprendre des nouvelles choses, mais je peux pas tout faire en même temps. Et comme là, je fais déjà de la politique et du piano, et je fais aussi de la danse. Si je faisais du bateau en plus, j'y arriverais pas.
Quel type de danse ?
Ah, je fais du lindy hop depuis le début de l'année, et c'est génial.
Qu'est-ce que c'est que le lindy hop ?
Alors, le lindy hop, c'est une danse des années 30 qui est inspirée du charleston. En fait, c'est du charleston, mais à deux. Oh. Donc c'est une danse qui est c'est une danse swing qui est très drôle, très élastique, qui est un peu l'ancêtre même du rock et des danses comme ça. Donc ça vient des danses noires américaines de l'époque et voilà, c'est vraiment très très amusant, quoi.
On a tous des moments, alors ça peut être quoi ? C'est une combinaison de plusieurs choses. C'est j'ai le sentiment d'être lésée, je suis en colère, j'ai de l'envie, j'ai de la tristesse, j'ai éventuellement de la peur. C'est tout ça, c'est toutes ces passions tristes mêlées qui tout d'un coup vous donnent... c'est très désagréable. Et puis le ressentiment, c'est pas tout à fait ça. C'est tout d'un coup vous entrez dedans, vous ruminez. Ça devient votre seule focalisation. Ça crée un approfondissement en soi, ça pénètre en soi. Et c'est comme du formol, c'est un pouvoir d'autoconservation absolument extraordinaire. Mais ce pouvoir d'autoconservation, précisément, il va produire une réaction et non pas une action.
La philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury sur France Inter au micro d'Ali Badou en septembre 2020. Dorothée de Monfred, vous avez choisi de parler de son livre Sigi, la mer, auquel vous pensez tout le temps depuis sa lecture. Je dois dire que c'est assez brillant. Il vous encourage à être créative plutôt qu'à ruminer les choses pénibles. Mais ça demande un effort, c'est quelque chose de dynamique, c'est un choix.
Ah oui, puis c'est un choix renouvelé tous les jours. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qu'on doit garder à l'esprit pour essayer de pas tomber dans le ressentiment tel qu'elle le décrit dans ce livre, qui est vraiment hyper brillant. C'est une tentation qu'on a hein, de tomber dans le ressentiment quand c'est justifié en plus, parce que c'est des situations qu'elle décrit où vraiment on a toutes les raisons de tomber dans le ressentiment parce qu'il y a des situations injustes dans la vie. Et elle analyse à quel point c'est un poison pour à la fois l'individu et la société, quoi, parce qu'elle a un raisonnement qui se fait à plusieurs échelles, donc à l'échelon individuel et à l'échelon politique de toute une société. Et ouais, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut vraiment garder à l'esprit. Pour moi, c'est une espèce de phare dans la nuit, quoi, ce bouquin.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'elle décrit bien, c'est que quand on est dans le ressentiment, en fait, on réagit à une situation au lieu d'agir. Or, il faut retrouver sa force d'action.
Voilà.
Devenir à nouveau un agent, plutôt que de dire tout le temps que c'est la faute des autres et ne jamais avoir sa part de responsabilité voilà. Dans aucune situation, sans pour autant ne pas reconnaître quand une situation est douloureuse,
mais
ne pas tomber dans le ressentiment. Et alors la chose très intéressante, c'est qu'elle dit que quand on redevient agent, qu'on va dans l'action, on passe forcément par la création. En gros, on ne peut que sublimer ce ressentiment, c'est-à-dire en faire une création.
Oui, c'est ça, c'est une manière de l'exprimer différemment qui permet de le dépasser. Et sinon, on tourne en rond, en fait.
Et vous y arrivez, ça ?
Oh bah, pas tout le temps, mais en tout cas, je sais que c'est ça qu'il faut essayer de faire pour pas tomber dans le marasme.
Ça se manifeste comment concrètement ? Parce qu'à un moment, par exemple, Cynthia Fleury dit il faudrait arrêter d'attendre une réparation. Quand on a subi quelque chose de douloureux, on attend une réparation, même inconsciemment. Et elle dit il faudrait partir du principe qu'il n'y aura pas de réparation.
C'est dur et en même temps, je pense que c'est assez juste. Et c'est ce qu'on dit de la justice, que enfin les gens qui ont eu à être confrontés à des situations où intervient la justice. Alors c'est vraiment pas évident, hein, mais j'ai souvent entendu ça qu'il fallait pas en attendre réparation parce qu'on finirait toujours frustré. Alors bon, moi j'ai pas été confrontée à ça, mais même dans des choses beaucoup moins graves, c'est vrai que ça se répare jamais, quoi, quand il y a un problème comme ça, je sais pas, un problème avec une personne ou une situation, et il faut essayer plutôt de faire autre chose.
Faire autre chose ou d'en faire quelque chose,
disons, d'intégrer ça dans quelque chose qu'on fait.
Alors, Dorothée de Monfred, vous dites aussi, sinon ce n'est pas vraiment la même chose, mais quand j'ai besoin de prendre de l'assurance, je pense à Freddie Mercury ou à Bruce Lee.
Ouais, alors je réfléchissais à ce que j'avais écrit là. Je pense que dans ces situations-là, je pense plus à Freddie Mercury. J'adore Bruce Lee, mais il est moins adapté pour ça. Mais Freddie Mercury qui rentre sur scène, là, moi, pour moi, c'est l'image qui me booste pour n'importe quoi.
Vous pensez simplement à son entrée sur scène et vous avez
ouais, je vois
plus
comment il bouge. En fait, je trouve ça dingue. C'est-à-dire que Queen, c'est un groupe que j'aime pas tellement. Enfin, je veux dire, j'écouterais pas un disque, quoi. Mais en même temps, je trouve ce mec dément et je trouve ça incroyable d'avoir assumé d'être à ce point lui-même et de faire à ce point ce qu'il avait envie de faire avec son groupe. Ils avaient l'air de s'entendre assez bien en plus, donc il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Et juste, je trouve ça dingue. Enfin, je sais pas, on voit des chansons comme Bicycle, c'est quand même hallucinant, ça ressemble à rien. Et c'est assumé à un niveau incroyable. Je veux dire, je connais rien d'autre qui soit à ce point soi-même à fond comme ça. Et ça se voit physiquement dans Freddie Mercury. Donc c'est pour ça que c'est une source d'inspiration pour moi.
Et Bruce Lee ?
Ah mais Bruce Lee, lui, j'adore. Et j'adore les films. Donc c'est autant j'écoute pas Queen, autant j'adore les films de Bruce Lee. Parce que je trouve que déjà, dans le sens de ce qu'il raconte, il y a un côté minorité opprimée qui se venge, qui me touche. Et puis il a beaucoup d'humour sur lui-même. Et puis c'est de la danse, quoi. C'est vraiment de la danse et de la chorégraphie. Et ça, moi, je suis très très amateur. Donc avoir tout ça qui s'incarne dans une seule personne, c'est formidable.
Je crois qu'il était champion de cha-cha.
Ah voilà, bah alors ça m'étonne pas du tout.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Con algo que él le hacía mal. Miles de
canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa. Se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca.
La Fama par Rosalia and the Weeknd dans L'Embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Dorothée de Monfred. Voici quelque chose de beau que vous recommandez aux auditeurs.
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
May we start. May we not start.
So may we start.
So May We Start des Sparks dans la scène d'ouverture du film Annette de Léo Scarrac sorti en juillet dernier.
Ah, c'est une scène absolument magistrale où on commence dans le studio où les Sparks enregistrent cette chanson et où petit à petit les musiciens nous emmènent avec les personnages à l'intérieur du film. Et c'est dingue parce que maintenant, j'ai vu le film deux fois et à chaque fois que j'entends cette chanson, j'ai l'impression d'être sur un train, quoi. C'est-à-dire que mon siège, ma chaise part et est emmenée dans un autre univers grâce à la musique.
Tout à l'heure, vous parliez de Freddie Mercury et du fait justement de ne ressembler à personne, de s'assumer parfaitement. Ce film, c'est le sentiment qu'il m'a donné aussi quand je l'ai vu, Dorothée de Monfred, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis dit, Léo Scarrax, là, il a vraiment fait un objet qui lui ressemble en se disant, la vie des autres, ce qu'on doit faire m'indiffère, je fais quelque chose qui me ressemble, parce que c'est quand même, il y a quand même un des personnages qui est une marionnette en bois.
Ouais, mais ça ressemble à rien d'autre,
non.
Quoi. C'est un truc incroyable. Alors, c'est tellement dense et riche que moi, je conseille à tout le monde d'y aller plusieurs fois parce que il y a des choses qui nous échappent et quand on le revoit, on perçoit mieux la structure et tout ça parce que c'est tellement plein de choses
que on n'en vient pas à bout. Et c'est formidable, une œuvre comme ça. Ouais.
Et c'est aussi... Bon, la bande originale est vraiment formidable.
Ouais.
Et puis, c'est très, très graphique.
Très graphique, ouais, c'est très beau, en fait. C'est un film qui est vraiment plein de cinéma. Et ça, moi, j'adore le cinéma comme ça, où c'est pas du cinéma de scénario. C'est pas du cinéma... Moi, j'aurais pas utilisé le terme graphique. Il y a certains cinéastes qui font des films pour illustrateurs. Enfin, je dis ça, c'est un peu horrible. Moi, j'aime pas trop les films pour illustrateurs. Et ça, pour moi, c'est autre chose. C'est du cinéma de cinéma, plein de cinéma. Et c'est dément. C'est-à-dire que ça peut pas s'expliquer autrement qu'en regardant le film.
Je vous ai demandé une œuvre pour être armée dans l'existence. Et vous avez répondu que vous n'aimiez pas trop l'idée d'être armée dans l'existence, ni l'idée d'une œuvre médicament. Alors moi, je crois pas aux médicaments. Enfin, sauf les médicaments avec des molécules qu'on avale avec de l'eau. Mais quand je dis armée, je veux dire un peu moins nu que sang, un peu augmenté. Et là, vous dites, Dorothée de Monfred, pour moi, il s'agit plutôt d'accepter d'être désarmée, de vivre ça bien. Ça va avec l'idée du jeu, l'idée d'accepter l'inattendu, les surprises et de s'amuser avec. Alors, je conseillerais le film Holy Motors, encore de Léo Scarrax, 2012. Et c'est un film qui vous rappelle que tout pourrait être autrement. Je vous laisse dire aux auditeurs pourquoi.
Oui, alors c'est un film... Alors moi, quand je l'ai vu, il faut dire que j'avais jamais entendu parler de Léo Scarrax. Enfin si, j'en avais entendu parler, mais j'avais vu aucun film. Et je suis tombée sur ce DVD. Je savais pas du tout ce que j'allais voir. Donc c'était d'autant plus mystérieux, parce que c'est un film où on voit un personnage faire des choses. Et dans la scène d'après, ce personnage, qui est joué par Denis Lavant, devient quelqu'un d'autre et fait d'autres choses. Et en fait, on met beaucoup de temps à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait le lien entre une scène et une autre, et en fait c'est une espèce d'hommage au cinéma, et on voit ce personnage qui traverse ces scènes qui ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui traverse la vie comme ça, et ouais, ça, pour moi ça me raconte que tout pourrait être à tout moment être autrement.
Oui, parce qu'il est patron, meurtrier, mendiante, ouais. Mendiante, je, ouais, dis, je mendiante. Mets bien un E à la fin, père de famille, enfin tout est inattendu.
Tout est inattendu jusqu'à la dernière seconde, et à la fin il y a une scène où c'est les voitures qui se parlent dans un garage, enfin c'est absolument incroyable, ça ressemble encore plus à rien que Annette, je trouve. Et ce film, et je sais pas combien de fois je l'ai vu aussi, je trouve que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie entière, quoi.
Society is a vast conspiracy.
La société est une vaste conspiration pour que n'apparaisse qu'une seule facette de nous-mêmes. Afin d'échapper à ce moi unique, nous devons trouver une voie pour nous détacher de tous les repères que la société nous a donnés pour mieux nous enfermer. L'une des façons d'y parvenir, c'est de nous forcer à devenir celui que nous sommes réellement. Et c'est une chose que le dé contribue à accomplir.
Un extrait traduit du documentaire Dice World sur l'Ukrainart, réalisé en 1999 par Paul Wilmschurz, pour creuser l'idée d'avoir plusieurs vies. Vous recommandez l'un de mes romans préférés, Dorothée de Monfred, alors je suis vraiment ravie. C'est L'Homme des de l'Ukrainart, paru en 1971. Je vous lis un extrait. Nous avons chacun une centaine de mois potentiellement réprimés. Nous avons beau fouler à toute force le sentier de notre personnalité, nous ne parvenons jamais à oublier que notre plus profond désir est d'être multiple, de jouer de nombreux rôles différents.
Ah oui, alors c'était un bouleversement total pour moi, la lecture de ce livre. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai lu, j'ai toujours un dé sur moi. Je m'en sers pas tellement, mais c'est potentiellement l'idée d'avoir un dé, quoi.
Vous l'avez là sur vous ?
Eh ben, je crois que je l'ai pas, parce que pour venir, j'ai changé de sac, vous voyez. Donc c'est un peu.
Ou le dé vous a dit de ne pas prendre de dé.
Voilà, le dé m'a dit de pas prendre de dé. Mais
parce que ouais. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le livre, est-ce que vous pouvez donner une idée de l'intrigue ?
L'intrigue, en fait, c'est une fausse autobiographie d'un psychanalyste qui décide un jour de prendre toutes ses décisions avec un dé. C'est-à-dire que il attribue à chaque face des actions possibles. Voilà, des issues possibles, mais c'est lui qui décide, et ensuite il lance le dé et il est obligé d'obéir. Donc ça commence comme ça, et petit à petit, en fait, le pouvoir du dé s'étend à ses patients, sa famille, etc. Et alors on imagine jusqu'où ça peut aller, et il va vraiment jusqu'où il peut aller au maximum de ce raisonnement. Et voilà, ça fait du dégât, mais en même temps c'est totalement fascinant, ce truc.
Vous avez déjà fait pareil ?
Ouais, je l'ai fait un petit peu, mais sur des choses pas fondamentalement graves, quoi.
Oui, pas de viol et de crime comme dans le livre. Ouais, je ne dis pas qui, je ne dis pas quoi, mais lisez ce livre qui est extraordinaire. Et donc, vous avez toujours un dé sur vous, parce que parfois, ça vous arrive de choisir ou de décider d'une chose grâce au dé.
Bah pas tellement, parce qu'en fait c'est pas dans mon caractère. Moi j'ai une espèce d'ego hyper centré, voilà, un moi très très solide, mais par contre, j'oublie jamais que j'ai un dé et que je pourrais faire autrement. Donc, j'ai l'impression que ça me sert à m'ouvrir l'esprit, quoi.
Alors, à la rubrique de la chose belle, c'est vous qui le dites, Dorothée de Monfred, histoire de ne pas proposer que des œuvres musicales, on pourrait aussi parler de David Hockney et de son œuvre Les Quatre Saisons. Alors, en ce moment, il y a A Year in Normandy au musée de l'Orangerie à Paris jusqu'au 14 février 2022. Et l'œuvre Quatre Saisons, c'est une frise de 90 mètres de long.
Oui, alors c'était, j'avais vu ça à Beaubourg, il y a 2-3 ans. Dans mon souvenir, c'était 4 panneaux qui étaient composés de plein de photos qui montraient un paysage donc pendant les 4 saisons différentes. Et en fait, nous, spectateurs, on est au centre et on est entouré par ça, donc c'est complètement immersif. Et ce qui est dingue, c'est que c'est des photos, mais ça ressemble à de la peinture d'Hockney, quoi. Et il y a une espèce d'aller-retour entre la réalité et la peinture avec lui qui est vraiment très très marquante. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'aime tellement David Hockney que souvent, quand je me promène dans la nature, je vois des arbres de David Hockney. Comme parfois, on voit des arbres très 18e siècle, c'est une certaine manière de dessiner les feuilles. Mais maintenant, je vois beaucoup d'arbres Hockney.
Et vous êtes allé voir l'exposition à l'Orangerie ?
Alors, pas encore. Là, ça fait partie des choses que je voudrais faire.
Il a quitté la Californie pour la Normandie en 2019, je crois. Et donc, c'est vraiment les quatre saisons qu'il a observées autour de lui dans son jardin en Normandie.
Ouais, et puis là, c'est dessiné sur iPad. Alors, c'est vachement intéressant parce que il utilise toutes les techniques actuelles qui sont à sa portée pour en faire quelque chose de complètement frais et moderne.
Il n'y a absolument aucune œuvre faite à la main ?
En tout cas, ce qui est exposé là à l'Orangerie, c'est une grande fresque et c'est que de l'iPad.
D'accord. Bon, je vous ai demandé un engagement. Dorothée de Monfred, et vous avez dit commencer ma journée d'atelier en dessinant ou en écrivant plutôt qu'en regardant mes mails ou mon fil Instagram. Est-ce que vous allez vous y tenir ?
C'est un objectif, alors j'espère que je vais m'y tenir, parce que c'est vrai que ça change tout, quoi. Le mieux, c'est commencer par dessiner le lundi matin tôt. Parce que le début de la journée, le début de la semaine, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire, si je rate ce moment-là, je sais que ça va être moins bien, quoi. Mais si je dessine bien, dès que j'arrive à mon atelier, j'allume même pas l'ordinateur, je m'y mets tout de suite, même avant de me faire un café, là, je tiens quelque chose qui est précieux.
Il nous reste encore un tout petit peu de temps et donc j'aimerais qu'on en profite pour évoquer quelques bonus avec vous. Il y a par exemple Debussy, il revient tout le temps en ce moment, je ne sais pas pourquoi il y a eu un engouement pour Debussy dans cette émission.
C'est drôle.
L'après-midi d'un faune.
Ah, ouais. Alors, la musique ou le ballet ?
Bah, ce que vous voulez.
Bon, alors, parce que la musique, c'est le prélude à l'après-midi d'un faune. C'est un truc génial. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est de la musique qui, au lieu de se dérouler comme beaucoup de musique, comme un ruban, quoi, qui se déroule dans le temps, comme ça, qui avance, la musique de Debussy, elle se déploie horizontalement et puis dans l'espace. Donc, il y a une espèce de truc qui est immobile dans le temps, mais qui se déploie dans l'espace et qui est vraiment unique. Donc, moi, j'ai beaucoup d'images qui me viennent quand j'écoute cette musique-là, tout Debussy d'ailleurs. Et l'après-midi d'un faune, je l'aime particulièrement parce que comme j'ai vu le ballet il y a quelques années, donc avec la chorégraphie de Nijinsky, ça m'a beaucoup marqué et j'ai toujours les images de ce ballet qui me reviennent à la mémoire quand je l'écoute. C'est dingue parce qu'en fait, on a l'impression que les danseurs ne sont plus humains, c'est-à-dire que le mouvement crée un corps différent. On a vraiment l'impression tout à coup que les danseurs ont des pattes de chèvre, voilà, et on assiste à une espèce de temps comme ça d'avant l'humanité avec des créatures bizarres qui se meuvent sur la scène. C'est très très poétique et très fort.
Est-ce que vous dessinez ou vous écrivez en musique ?
Alors, je dessine parfois, oui, mais par contre, écrire, non. J'ai besoin du silence complet, sinon je ne peux pas me concentrer.
Je sais que la musique et la danse sont très importants pour vous et ça vous inspire pour l'aspect chorégraphique de vos histoires. Et je sais que vous adorez Maurice Ravel, Léonard Bernstein, Claude Debussy, donc, Django Reinhardt, Philippe Catherine, Chassol, Lalo Schifrin, Nino Rota, Bertrand Burgala, Forever Pavot.
Mais vous savez tout ?
Mais non, mais j'enquête. Je suis un stalker détective privé. Est-ce que vous avez une recommandation ? Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ?
J'écoute la musique de Annette tout le temps.
Et les Sparks.
Ouais, les Sparks. J'écoute un peu Eric Satie, là, parce que comme je suis en train de ramer sur la Gnosia numéro 4 au piano, je l'écoute pour l'avoir davantage dans l'oreille et arriver à mieux la jouer. Et j'écoute beaucoup de musique de comédie musicale, par exemple Company ou ce genre de choses.
Il y a le cinéma aussi qui vous inspire.
Ouais.
Alors il y a Fellini, Carax, Romer, René, Buñuel, Tarkovsky.
Bah oui, en fait, c'est un art du temps aussi, donc je pense que c'est ça qui me plaît là-dedans, et puis l'image, ouais.
Et vous n'aimeriez pas un jour faire un film? Je me demande s'il n'y a pas un dessin animé dans les tuyaux.
Ah bah oui, je suis en train de travailler avec toute une équipe pour faire une série animée à partir de mes livres des toutous, voilà.
Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça sortirait quand?
Alors je sais pas, parce que c'est un travail de longue haleine, là on est en train de préparer une bible avec des scénarios, du graphisme, etc. Mais vous serez au courant.
Ah bah j'espère. Vous dessinez, quand on fait un long métrage d'animation, je ne sais pas comment ça se passe, vous n'êtes pas la seule à faire les dessins, j'imagine?
Non, alors bon, là c'est une série et puis on n'en est pas encore là, mais en fait moi ce que je fais, c'est que je fais des modèles de personnages qui peuvent vraiment être mis dans toutes les positions possibles, donc il s'agit de vraiment de déterminer toutes leurs expressions selon les situations, et ensuite à partir de cette bible, quoi, c'est-à-dire c'est une sorte de grammaire de forme, ça va être repris par des gens qui vont dessiner en reprenant ce qu'on a établi au départ.
Bon, bah, on a hâte. Merci beaucoup Dorothée de Monfred d'être venue.
Merci beaucoup Eva.
Je rappelle le titre de vos derniers albums, Mystère dans le grenier à l'école des loisirs et Marimoto seul contre l'ouragan, je me suis régalée, au Seuil Jeunesse. Le 10 mai prochain, on verra vos dessins de la campagne de Yannick Jadot dans l'ouvrage collectif Carnet de campagne, regroupant les dessins de 5 autres auteurs ayant suivi différents candidats, auteurs et dessinateurs, une coédition par Dargo et Le Seuil. Et au printemps, un livre de jeux des toutous va sortir, j'adore cette phrase. Et peut-être à l'automne, des puzzles et puis le dessin animé qu'on vient d'évoquer. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, nous, sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez la gaillardise d'une giboulée de janvier experte en kung-fu. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.